Et à 7h43, je vois Alain Baraton et sa main verte. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On parle beaucoup en ce moment des poutres des cathédrales. Eh bien, elles ne font pas que supporter les charpentes.
Elles permettent aussi de dater avec précision la construction de certains édifices en l'absence de documents écrits. Pour ce faire, on emploie la dendrochronologie.
Dendrochronologie, en quoi consiste cette technique alors ?
Alors le dictionnaire Larousse précise, je cite, « méthode de datation absolue des bois et des climats pour le comptage et l'étude des variations d'épaisseur des cernes concentriques annuelles apparaissant sur la section transversale des troncs d'arbres. »
En clair,
un arbre produit chaque année une fine couche de bois appelée anneau de croissance ou cerne. Celui-ci est bien visible sur la coupe d'un tronc et nous renseigne donc sur l'âge de la plante, son environnement et le climat.
Les anneaux de croissance, ils ne sont pas tous identiques.
Ils varient en effet en fonction de la météo. Les cernes sont par exemple plus larges et plus claires quand le printemps est très pluvieux. Il suffit aussi de les compter pour connaître l'âge d'un arbre, mais aussi et surtout son année de plantation.
Alors depuis une cinquantaine d'années, cette datation, cette dendrochronologie, elle a fait d'énormes progrès.
Oui, alors en superposant les anneaux de croissance d'arbres ayant vécu à différentes périodes, parfois même éloignés de plusieurs siècles, il va apparaître des similitudes. Alors je vais essayer de vous faire comprendre comment on procède, c'est relativement complexe. Prenons l'exemple d'un arbre mort en 2019 et né en 1700. Prenons l'exemple d'un autre arbre né en 1600 et mort, lui, en 1780. Il y aura donc les mêmes cernes sur les deux arbres pour les années allant de 1700 à 1780, années de vie commune aux deux arbres. En poursuivant avec le même principe l'étude des poutres des cathédrales, il est ainsi possible de remonter loin, très loin dans le temps. Cette méthode de calcul est plus précise que le carbone 14 et permet de dater du bois vieux de plusieurs milliers d'années.
Alors, les poutres de Notre-Dame de Paris, elles avaient bien sûr été analysées.
Elles avaient elles aussi fourni de précieux renseignements sur notre histoire. En 1122, le roi Louis VI le Gros autorise l'évêché à planter des chênes sur une parcelle de la forêt royale d'Outre-Courtille qui se situait à l'emplacement de l'actuelle gare du Nord. Un siècle plus tard, les chênes sont de belles dimensions et coupés pour construire en 1220 la charpente de Notre-Dame de Paris. Grâce à la dendrochronologie, on sait qu'une partie de la charpente était encore plus ancienne et obtenue grâce à des arbres âgés de 300 à 400 ans et abattus, la date est précise, entre 1160 et 1170. Donc, n'en déplaise à ce que j'entends parfois sur quelques antennes, une cathédrale ce n'est pas que de la pierre et ce n'est pas que du bois, c'est l'histoire, c'est le passé, c'est la culture, en un mot c'est la vie.
Eh bien, c'est dit. Alain Baraton, vos réponses, vos conseils maintenant aux auditrices, auditeurs de France Inter avec Guy. Guy nous dit que l'année dernière, il a commencé à couper un cerisier qui avait fait de la cire. Il ne restait que le tronc et des moignons. Et puis voilà que cet arbre cerisier coupé avec de la cire rebourgeonne finalement. Y a-t-il une chance qu'il puisse survivre ? Un mot sur la cire, ça veut dire
la
quoi ?
La cire, c'est pas de la cire, en fait, c'est de la gomme. On l'appelle gomme ou gommose. C'est une résine qui est sécrétée.
Sécrétée
par la plante.
Il y a le boulevard secrétant.
Voilà. Et alors, il n'y a pas de méthode pour lutter contre la gomme ou gommose. Et retirer la gomme qui apparaît sur le tronc ne sert à rien. Mais vous l'avez déjà remarqué, vous avez des vieux cerisiers. Il y a cette résine très collante et très jolie d'ailleurs. C'est très joli. Malheureusement, la production par l'arbre d'une telle gomme fatigue le végétal. Alors, quand on coupe très brutalement un cerisier, on provoque une réaction de survie. La plante se dit, je suis en train de mourir, je vais produire quelques feuilles. Malheureusement, couper trop court un cerisier condamne la plante à mort. Il n'y a aucune chance que cet arbre ne redémarre. Il est mort. Ce n'est pas les quelques petites feuilles, malheureusement, qui lui permettront de survivre à une coupe aussi brutale.
Parce que couper trop court, trop de moignons, quoi.
Bah oui, bien sûr, parce que je vous rappelle que les feuilles ne sont pas seulement un ornement végétal esthétique. Ce sont les poumons de la plante, c'est le cœur de la plante.
Il y a peut-être des phénix chez les plantes.
Ça arrive parfois que certaines plantes renaissent de leur cendre. Il est vrai aussi que des plantes sont capables de résister à des températures extrêmes, de s'adapter. Mais le cerisier est beaucoup plus fragile. Il a tellement été modifié par l'homme que le cerisier aujourd'hui, celui qui produit les cerises pour notre dessert, malheureusement ne résiste plus à la taille abusive de certains jardiniers.
À propos maintenant des neiges tardives, Eric nous signale qu'une chute de neige le 4 avril dernier sur son magnolia en fleurs qui est vieux de 30 ans et qui fait plus de 6 mètres de haut. Cette neige, le poids de la neige a cassé deux grosses branches, fendu d'autres branches. Que doit-il faire ?
Alors, si je devais me baser aux travaux des botanistes britanniques, je dirais rien. Il y a souvent une erreur de vouloir couper net une branche cassée. On le fait pour des raisons d'esthétique. Mais dans la nature, l'arbre a l'habitude de cicatriser beaucoup mieux une branche qui est déchiquetée plutôt que coupée net, parce que elle ne connaît pas cette droiture dans la section. On est dans un arbre malade de jardin. Il faudra donc couper les branches qui ont été trop gravement endommagées, et en particulier les branches fendues, parce que quand la branche est fendue, eh bien, elle risque malheureusement de produire du bois. Enfin, le bois risque de se décomposer. La décomposition d'attirer les champignons, et les champignons ensuite de parcourir ou d'envahir l'intégralité de la ramure. Donc, couper les branches fendues, malheureusement, elles ne pourront pas se reconstituer. Couper les branches trop, comment dire, endommagées. Mais souvenez-vous qu'on ne coupe jamais trop près d'un tronc. Il faut que la plante puisse cicatriser. C'est long, il faut du temps, mais il faut de la patience.
Jean-Marc vous demande s'il existe des plantes aquatiques qui peuvent prendre racine dans un bassin profond d'1,40 m.
Pas tant que ça. Beaucoup de plantes d'eau ou plantes aquatiques sont des plantes de rive, comme par exemple le Catap alustris. J'adore cette plante qui fleurit merveilleusement.
C'est un nénuphar, c'est quoi?
Non, c'est une plante. On a les mains qui fleurissent jaunes, qui est une plante de berge et qui est très jolie. Le nénuphar, lui, peut se planter à différentes profondeurs, mais 1 mètre me semble être le maximum. Alors, comment faire quand vous avez une pièce d'eau qui fait 1,40 m, vous voulez des nénuphars? Eh bien, vous les plantez dans des pots. C'est-à-dire que vous mettez au fond de votre pièce d'eau de grands pots que vous retournez et vous plantez le nénuphar en pot, lui-même posé sur le pot. Est-ce que vous me suivez?
Non. C'est pots sur pots, mais je vois pas très bien l'utilité
de ça. Il y a des fois moi-même de ne pas me suivre. Alors, vous prenez un pot vide.
Ça, c'est parce que vous allez trop vite.
Voilà. Alors, mon nénuphar, je le plante dans un pot.
Non, alors vous le mettez dans un pot tout à fait normal. Mais oui. Ce pot, au lieu de le poser à même le fond de la pièce d'eau, vous le posez sur un autre pot qui, lui, a été mis dans l'autre sens, posé au fond pour surélever.
Pour faire
ainsi
un tabouret.
Bravo, je vous remercie. Vous mettez un tabouret à défaut de pot au fond du bassin. Vous mettez le pot de nénuphar et vous arriverez ainsi à pouvoir planter. Parce que 1,40 m, 1 mètre 10 possible, au-delà, je n'en connais pas beaucoup.
Denis a des poiriers et les fleurs de son poirier sont regroupées par 5 ou 6. Faut-il n'en laisser qu'une seule, un seul bouquet?
La plante se débrouille par elle-même. Les pommiers aussi, quand vous regardez bien, il n'y a pas qu'une seule fleur, ce sont des petits bouquets de fleurs. Hein, c'est la plante elle-même qui va ensuite sélectionner, eh bien, comment dire, ce qu'elle doit faire.
Allez, on va terminer avec un livre entre vos mains.
Livre d'actualité, très beau livre. Ce que nous disent les arbres du monde, c'est Jonathan Drory, les illustrations très belles de Lucille Claire. C'est publié par Oebeke, je ne sais pas si je prononce bien.
Oebeke.
Voilà. Bon, on nous parle des arbres sur la planète, c'est drôlement bien écrit.
Et les arbres, on va le répéter, c'est un peu votre dada.
Oui, à demain.
À demain, Alain Baraton, il est 7h51.